Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous poursuivons nos études dans l'épître de Jean. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 2. Dans la première partie du chapitre 2, Jean a mis en évidence qui est Jésus-Christ. Et tout au long de cette première partie, nous venons de dire qui est Jésus-Christ. Et ce dernier cantique le dit à nouveau avec force, qui est Jésus-Christ. Puis il écrit aux personnes qui composent l'Église par groupe d'âge pour leur parler de l'implication de chacun dans la vie de l'Église. Et cette première section se conclut par l'assurance que nous devrions avoir si Christ est notre. Et la seconde session démarre ici avec un impératif à partir du verset 15 que nous lisons de suite. 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à la fin. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or déjà, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvu de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons l'assurance, lorsqu'il apparaîtra, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui, lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Certains diront, mais vous, les chrétiens, vous êtes des gens terribles. Comment pouvez-vous dire de ne pas aimer le monde? Que dit Jean dans cette fameuse... dans ce fameux verset, connu de même des païens, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et vous, chrétiens, vous arrivez aujourd'hui et vous nous dites, « N'aimez pas le monde du même auteur. » Que comprendre? Il est bon de lire l'entièreté, comme nous l'avons fait, l'entièreté de l'écrit de Jean pour comprendre sa pensée. Le verbe « aimer » dans ce passage peut prendre deux formes différentes en fonction de l'objet auquel il est attribué. Dieu a aimé le monde, dans ce sens qu'il porte un regard favorable aux hommes qui font partie de ce monde. Ne pas aimer le monde, dans ce passage qui nous occupe, c'est ne pas participer à cette entreprise destructrice et égoïste qui consiste à rejeter l'autorité du Seigneur et à marcher selon le prince de ce monde, le prince de ce monde qui est le diable. Vous comprenez la distinction ici faite entre les hommes qui constituent l'objet et l'attention du Seigneur et les pratiques en vigueur dans ce monde qui sont initiées, nourries, encouragées par Satan. Jacques chapitre 4, verset 4 déclare « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » C'est du monde qui est fait de convoitise, d'orgueil, qui n'a rien qui vienne de Dieu en termes de valeur à vivre. Un monde sous l'influence de la domination diabolique. Et ce commandement de Jean devient donc logique, car en effet, nul ne peut servir deux maîtres. Et la réalité est que nous sommes face à cette dualité. Celle du monde où les hommes sont appelés à faire un choix clair. Il s'agit de servir soit l'Éternel, soit servir le diable. Aucune autre alternative n'est proposée. Alors, je sais que nous sommes dans un monde post-vérité où la vérité, elle est ma vérité. L'être humain s'est placé au centre du jeu et décide de ce qui est la vérité pour lui. Mais si nous considérons la parole de Dieu comme la vérité, nous devons la prendre comme elle nous l'est donnée. Et elle nous commande de faire un choix. Un choix pour ceux qui veulent accomplir la volonté de l'Éternel. Ceux-là ne peuvent pas être en même temps en train de vouloir accomplir la volonté de l'Éternel et de satisfaire aux appels du monde. Ça, c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas aimer le monde. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas aimer le monde, c'est que le monde, il passe. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31 déclare « Le monde, dans sa forme actuelle, passe. » Et c'est aussi ce que nous voyons verset 17. Comment mettre sa foi dans quelque chose qui disparaît comme un éclair? Il n'y a aucune espérance dans les choses du monde. Et Jean nous parle ici de la convoitise des yeux. L'apôtre Paul écrit en effet aux Romains, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, versets 24 et 25. Le chrétien n'est pas un homme pressé. Il sait attendre l'heure du Seigneur. Il fait un choix délibéré, un choix éclairé, un choix sage. Faire un choix devient donc urgent, parce que c'est la dernière heure. Si vous habitez hors de la ville et que vous allez faire vos courses, en consultant votre montre, vous dites, tiens, je ne suis pas motorisé, je n'ai pas de voiture, je dois rentrer en train ou en tram ou en bus. Et c'est peut-être l'heure pour le dernier. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous précipitez pour être à l'arrêt ou au quai, de manière à ne pas rater ce dernier transport du jour. Jean écrit à ses petits-enfants et leur déclare « C'est la dernière heure ». Alors les gens sont souvent intéressés, très attentifs quand on parle de la fin du monde, de la fin des temps. Certains parce qu'ils se disent « Quand est-ce que ce sera ?» Parce que je voudrais profiter de la vie et comme je sais quel sera le moment, alors à ce moment je vais changer d'attitude. D'autres sont plutôt dans une attitude de dire « Quel spectacle aura-t-il lieu à ce moment-là ? Je voudrais bien être présent pour voir ce qui se passera. » De nombreuses interprétations sont données pour expliquer cette dernière heure. Certains la lisent de manière littérale. D'autres font référence à la venue de Jésus, la venue du Christ qui inaugure la dernière heure. D'autres encore mettent en avant les paroles de Jésus qui déclarent « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. » Marc chapitre 13, verset 32. Cette dernière heure indiquée par Jean devrait donc être considérée dans le sens d'un avertissement. Un avertissement à la vigilance adressée aux croyants. Il ne s'agit pas du dernier métro, du dernier bus ou du dernier train, mais il s'agit d'être dans un état d'éveil, de vigilance, de prière, une vie dans l'intimité du Seigneur. Du temps de l'apôtre Jean, les antichrists prolifèrent. Et en cela, on voit un signe de la fin. La dernière heure est ainsi celle qui commence avec la venue du Christ dans le monde et qui s'achève avec son retour bientôt. Jean, dans cette partie, dénonce l'opposition et la négation de Jésus comme Messie. C'est l'œuvre des antichrists. On en avait annoncé un seul, et du temps de Jean, il y en a plusieurs. Ce qui est terrible, c'est qu'ils sont issus des rangs de l'Église. Verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous », écrit l'apôtre. Autrement dit, dans l'Église, tous ne sont pas au Seigneur. Certains s'introduisent dans l'Église de manière sournoise avec un objectif diabolique. Ils sont hypocrites, car en effet, ils se font passer pour des frères en Christ. Heureusement, Jésus-Christ a promis de garder son Église. Et c'est ce qui est notre assurance, qu'au jour venu, ils seront mis à nu. On ne reste pas éternellement caché au sein de l'Église de Christ. Un jour ou l'autre, le voile tombe. Et c'est ce qui est arrivé à ces personnes qualifiées d'antichrist. Jean commande donc aux croyants de veiller à la doctrine, d'être conscient de la nature de l'Église. L'enseignement ou encore la doctrine est fondamental. Si l'on ne prend garde, le culte peut devenir un moment ludique d'expression de nos désirs. Les croyants devraient être des conservateurs en ce qui concerne la doctrine, la saine doctrine, celle qui a été donnée, apportée par les apôtres. Il est juste de garder cet enseignement non frelaté. Et ici, Jean ne prend comme point de la doctrine qui touche à la persévérance. Il constate que cette vertu n'est pas partagée de ceux qu'on appelle les antichrists. Marc 13, verset 13 déclare « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le message des antichrists ne nous est pas relaté par Jean. Attendait-il quelque chose qui ne s'est pas produit? Nous n'en savons pas plus. Après les antichrists dénoncés par Jean, il est essentiel que les croyants comprennent que l'Église comporte deux dimensions complémentaires. Elle est à la fois visible et invisible. L'Église qui est visible, c'est celle que nos yeux voient. Ce sont les hommes et femmes à nos côtés, certains pour lesquels nous apprécions les qualités, mais nous ne pouvons pas toujours dire avec une garantie à 100% qui entretient une relation avec le Seigneur. La différence est une question d'onction, la présence de l'Esprit-Saint dans une vie. En Romains 8, verset 9, on lit ceci, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Dans la parabole de la mauvaise herbe, Jésus dit au sujet du bon grain de la mauvaise herbe, « Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » La situation de cette église à laquelle Jean écrit est un état de grâce du Seigneur. Il a permis la mise à nu des faux prophètes, des antichrists. Mais la parabole nous dit que c'est le jour de la moisson que les masques tombent. Les masques tomberont le jour de la moisson. L'Église invisible est l'Église authentique, est l'Église connue par Jésus-Christ seul, parce que c'est lui qui donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et l'Esprit Saint enseigne sur qui est Dieu, mais aussi sur ce que le Seigneur attend de nous, attend de ceux qui lui appartiennent. Et il devient donc impossible pour ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, d'être comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Parce que la doctrine, ils l'ont. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint qui garde l'enseignement du Seigneur fidèle dans leur cœur. Ils sont dans la vérité, parce qu'enseignés de la vérité. En 1 Jean chapitre 4, les versets 2 et 3, il nous est révélé ce que les antichrists enseignaient. Pour eux, Jésus est né et mort comme homme. Il a été Messie pendant son ministère, jusqu'au moment de mourir à la croix. Autrement dit, il y a là la négation de l'incarnation de Christ. Pourtant, la parole de Dieu enseigne cette incarnation tout au long de son développement. Ésaïe en parle déjà au chapitre 9, les versets 5. Qui est menteur? Verset 22. Le menteur, c'est celui qui vit dans l'illusion de connaître le Père. En effet, le Fils est celui qui nous révèle le Père. Comment connaître le Père si tu rejettes le Fils? Et la Bible est sans détour sur cette question. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est donc le Fils de l'homme qui nous fait connaître le Père. C'est donc le Fils de l'homme qui peut nous parler des réalités célestes. Que peuvent nous dire les antichrists au sujet de ce qui se passe dans le ciel? Pas grand-chose, si ce n'est des mensonges. Les antichrists se révèlent comme dangereux, diaboliques. Ils ont une conception de Christ qui n'est que le fruit de leur supputation. Cette doctrine est une hérésie qui doit être combattue, et c'est ce que Jean fait dans cet épître. Jean commande donc aux croyants de rejeter le monde avec ses convoitises. Ce sont elles qui éloignent de la vraie foi, elles éloignent de la doctrine authentique, parce qu'elle recherche ce qui plaît à la chair, à la nature humaine. On oublie que le croyant est une création nouvelle. Et bien qu'il soit sur terre, il est un citoyen du ciel. Il est en relation avec le Fils. Il est habité du Saint-Esprit qui l'enseigne et lui rappelle l'enseignement de Christ. Jean donne donc dans cette dernière section l'antidote à l'hérésie. Cet antidote, elle est faite d'une bonne doctrine, d'un bon enseignement et de la présence du Saint-Esprit. Et d'où vient cette doctrine? La doctrine a pour fondement la parole de Dieu. Jean écrit, « Retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. » Ce qu'ils ont entendu, c'est l'enseignement apostolique. Cet enseignement ne change pas et ne changera pas. Il a été inspiré par le Seigneur pour son Église. Il restera le même jusqu'au retour de Christ. Bien entendu, il n'est pas enseigné sous la même forme, parce qu'aujourd'hui, nous parlons à un peuple, à des hommes qui vivent dans le temps d'aujourd'hui. Et donc, nous devons adopter notre vocabulaire à leur compréhension. Mais l'essentiel, l'essence de la parole de Dieu demeure. L'apôtre Paul avertit en 2 Timothée 4, les versets 3 et 4, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Est-ce que cet avertissement nous questionne? Il est bon de temps à autre de s'arrêter pour savoir où on en est. À courir après de nombreux enseignants, on finit par se perdre l'objectif d'apprendre, se dissout comme du sel dans l'eau. On sort de toute cette agitation vide. La saine doctrine est indispensable pour une vie de foi saine, solide, ancrée en Christ. Saint-Esprit est celui qui fait de chacun un enfant de Dieu. L'onction de Dieu, la venue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne est une expérience personnelle et subjective. On peut être dans l'Église et avoir les manifestations de ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Et pourtant, au jour de la moisson, le Seigneur dira, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Le fait de saisir la parole qui nous a été enseignée et de vivre par l'Esprit de Dieu sont essentiels à la vie qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas la multiplicité des enseignements ou des enseignants, le grand nombre des maîtres qui fait de nous des croyants qui plaisent au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, ne cours pas à travers la ville pour trouver un enseignant qui aurait tel ou tel talent, qui fait tel ou tel miracle. Repose-toi sur ton assiduité à la lecture de la parole de Dieu, de ton amour pour la parole de Dieu, de l'implication que cette parole de Dieu a dans ta vie. Est-ce que c'est cette parole qui inspire tes décisions? L'apôtre Jean recommande de demeurer. Restez ancré dans la parole de Dieu et donnez accès au Saint-Esprit pour votre éducation. Ce qui égare ne date pas d'aujourd'hui. Verset 26 est assez instructif à cet égard. Le diable est le père du mensonge. Et ce mensonge commence en Éden. Et il se poursuit aujourd'hui. Il a pour seul objectif d'éloigner l'homme de Dieu. Cet homme que Dieu aime tant, au point de donner son Fils, Jésus-Christ, pour le sauver. Oui, toi qui es dans cette salle ce matin, Dieu a de l'amour pour toi. Mais il y en a un qui veut te séduire et détruire ton avenir. Et cela ne sera possible que si ton oreille est attentive à ces flatteries. tu risques alors ta vie. La saine doctrine t'invite à plonger les regards dans cette parole qui est désormais accessible à tous. Il n'est pas nécessaire de parcourir des chapelles. Appelle le Seigneur à ton secours. Il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Pourvu de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, tu es prêt à t'engager sur le chemin que commande Jean à ses croyants. Les dérives dans la foi, la vie de foi, sont nombreuses. Certains mettent un accent particulier sur la parole. Ils oublient l'œuvre de l'Esprit. D'autres subliment l'Esprit, oublient la parole. Mais les deux doivent aller ensemble. L'Esprit Saint illumine la parole de Dieu et nous la rend accessible, de manière à ce que nous puissions la pratiquer, de manière à ce que nous puissions l'aimer. Si nous négligeons l'Esprit, la parole devient sans saveur. Et si nous sublimons l'Esprit, nous devenons des chrétiens hors sol. Vous aurez constaté que Jean utilise à maintes reprises le fait de demeurer. Du verset 24 au verset 29, à 5 reprises, Jean utilise ce verbe. C'est dire si cela est important. Le fait de demeurer signifie rester à un endroit, le même, de manière constante. Si vous avez entendu parler de la bonne nouvelle, vous l'avez reçue. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, demeurez dans cet état. N'allez pas chercher dans des pratiques spéciales comme faisaient les gnostiques, qui pensaient qu'il fallait une initiation particulière pour acquérir une foi, comment pourrait-on la qualifier, spéciale, extraordinaire. Demeurez ancré dans la parole de Dieu. Donnez-vous l'opportunité de l'étudier. Laissez-vous inspirer par l'Esprit Saint. Est-ce que ce serait faux de dire que les croyants aujourd'hui sont paresseux? Ils pensent que certains pensent, en tout cas, que la lecture de la parole de Dieu est réservée à quelques-uns. Alors ils la lisent par procuration. Pourtant, dans la parole de Dieu, on nous parle des Béréens. Ils sont un exemple d'encouragement pour nous. Certes, nous n'allons pas lire la Bible comme si nous étions les premiers à la lire. D'autres l'ont lu avant nous. Mais nous sommes encouragés à prendre le temps pour étudier la parole de Dieu, pour y plonger nos regards afin de confronter ce qui nous est enseigné. Est-ce que ce qui nous est enseigné est la parole de Dieu? D'autres l'étudient, mais ils nous en donnent que la quintessence. Est-ce que cela est suffisant pour nous faire grandir? Alors cette parole, à quoi sert-il qu'elle soit disponible pour tous? Chez les chrétiens de longue date, certains estiment qu'ils en ont fait le tour. Alors, pour se sentir renouvelés, ils partent d'une église à une autre, d'un enseignant à un autre, en se disant peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau. De quoi nourris-tu ton âme? Faut-il rappeler que l'âme se fortifie par la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu? Et Jean nous enseigne les bienfaits de demeurer dans la doctrine saine, versets 28 à 29. Et le premier de ces bienfaits est l'assurance que nous avons le jour de la parousie, le jour du retour de Christ. En Actes 1, verset 11, nous avons deux hommes habillés de vêtements blancs qui apparaissent aux apôtres pour leur annoncer que ce Jésus qu'ils ont vu disparaître revient de la même manière qu'il est parti. Quand il reviendra, il y aura alors deux réactions. celle de ceux qui auront demeuré dans la saine doctrine et qui seront assoiffés d'approcher le Seigneur, de dire « j'ai tant, j'ai vivement désiré ce moment ». Et les autres qui auront douté et qui se diront « aïe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Il sera trop tard. Les premiers seront confiants. Ils se retrouveront dans une situation de cet étudiant qui a bien fait son travail, qui a réussi ses examens et qui va à l'annonce des résultats. Il n'a pas de crampes au ventre. Il est serein, n'est-ce pas? Ceux qui seront restés dans la doctrine saine s'entendront dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Le deuxième bienfait à demeurer dans la saine doctrine est la confirmation de l'identité acquise en l'Éternel, verset 29. Ceux qui auront cru auront laissé transparaître les fruits de l'Esprit qui seront à juste titre reconnus, nés de lui, nés du Seigneur. Le proverbe populaire dit que les chiens ne font pas les chats, n'est-ce pas? Les enfants ressemblent souvent à leurs géniteurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ressembler au Seigneur, à ressembler au Seigneur par les qualités qui sont les siennes, les attributs de Dieu. Certains se comparent aux chrétiens en disant « Moi, je fais des bonnes actions, je ne fais de mal à personne, je ne suis pas comme ces chrétiens pantouflards qui restent dans leur salon alors qu'il y a tant de personnes à aider. » D'autres qui sont chrétiens se disent « J'ai des solides connaissances de la parole et pensent que cela suffit pour les sauver de la mort qui guette. » Il m'est impossible de savoir dans quel état spirituel chacun se trouve. Qu'est-ce que nous devons faire de ce passage? Qu'est-ce que nous devons faire de cette parole aujourd'hui? Si tu es de ces chrétiens qui courent d'une chapelle à l'autre, je t'inviterai à t'arrêter, à prendre du temps pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier, et pour demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur n'est pas avare pour donner son Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Installe-toi là où le Seigneur te guide. Vis une vie stable et équilibrée, une vie spirituelle stable et équilibrée. Pour toi qui ne trouves plus du plaisir dans l'église dans laquelle tu vis, c'est peut-être aussi le temps de faire un bilan. Et rappelle-toi que les émotions sont changeantes. Un jour tu es heureux, un jour tu es malheureux, un jour tu es enthousiaste, un autre jour tu n'en as pas. Une chose qui est stable, c'est la parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu guide. Et l'Esprit que le Seigneur donne n'est pas un esprit de chômeur qui te fait tourner en rond, mais un esprit qui te donne du plaisir à trouver ta joie dans cette parole de Dieu. Pour toi qui ne lis plus ta Bible à cause de la paresse, sans parole, il sera difficile de tenir debout. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans le désert et que le diable est venu avec toutes ces propositions? Il a répondu, il est dit dans la parole. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous, que nous saisissions cette parole et qu'elle nous habite pleinement de façon à réagir lorsque le tentateur vient pour nous proposer des choses. Pour toi qui enseignes à quelque niveau que ce soit, que le Seigneur te garde de toute dérive et qu'il t'accorde la sagesse pour un enseignement fidèle, sans recherche de ton propre intérêt, mais dans le but de l'affermissement de la communauté du Seigneur. Et si tu n'as toujours pas compris après tout ce qui vient d'être dit, retiens au moins ces quatre choses. Premièrement, fais le choix pour le Seigneur et tu vivras. Fais le choix pour le Seigneur et tu vivras. Deux, nous sommes dans une situation d'urgence. Les faux prophètes sont nombreux. Trois, l'Église n'est pas le paradis. Tu dois rester vigilant. 4. Prends avec toi la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit actif dans ton cœur. Demeure dans ce choix. Que le Seigneur nous éclaire afin que nous soyons de ces croyants avertis, de ces croyants adultes, de ces croyants qui demeurent dans la parole de l'Éternel. Amen.